Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Théo Curin et bienvenue dans cet épisode hors série de Échange.
La première fois que je l'ai vu, c'était l'an dernier à Roland-Garros. Forcément, il y a toujours un peu de tennis. Il était de dos, debout grâce à ses prothèses, puis il s'est retourné et j'ai compris. Ce charme immédiat, cette force de vivre et ce sourire avec l'œil qui frise, Théo a dans le regard un côté lointain, comme s'il était toujours en train de chercher un moyen d'aller plus loin. C'est peut-être la seule solution pour se remettre du drame qu'il a vécu à seulement 6 ans. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Oui, la musique est revisitée par Laurent Aquenin au studio L'Aude, c'est un nouveau format, mais c'est toujours Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Bonjour Théo Curin et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es né le 20 avril 2000, tu as donc 21 ans. Et le 18 mai 2006, la vie te met déjà devant un énorme défi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il se passe ?
Ouais, exactement. En mai 2006, je me lève avec un mal de tête, assez insoutenable et pas normal, surtout qu'à l'époque, moi, je suis connu pour être un enfant assez turbulent, qui est un peu le casse-cou de la famille, qui fait souvent des allers-retours aux urgences, mais qui se plaint rarement de petits bobos. Et ce matin-là, quand je me lève avec ce mal de tête et que j'en parle à ma maman, on sait pertinemment tous les deux qu'il est en train de se passer quelque chose d'anormal. Et on décide d'aller voir ma pédiatre. Et cette pédiatre nous dit que c'est sans doute viral et qu'il faut juste que je me repose. Sauf que mon état s'est aggravé dans la journée. Et j'ai fait un pic de fièvre jusqu'à 42 degrés. Et en début d'après-midi, je me suis mis à convulser. C'est à partir de là que ma vie a pris un véritable tournant, ouais.
Tu arrives à l'hôpital et le diagnostic tombe. On te diagnostique une méningite qui nécrose les extrémités de tes membres et on doit t'amputer les 4 membres.
Exactement. C'est ça. Ouais, j'ai beaucoup de chance à ce moment-là parce que je suis pris en charge par la personne qui m'a réellement sauvé la vie, la pédiatre urgentiste qui était là à l'hôpital ce jour-là. Elle a su immédiatement, dès mon arrivée à l'hôpital, diagnostiquer une méningite bactérienne avec un purpura fulminant, c'est-à-dire que c'est une bactérie qui va s'amuser à se balader dans les vaisseaux sanguins des mains et des pieds et qui va nécroser en fait petit à petit les extrémités. De jour en jour, elle va progresser et c'est vrai que du coup, on teste tous les traitements possibles et imaginables. Il y a une véritable équipe autour de moi, des médecins, des infirmiers, des chirurgiens, des professeurs. Et pourtant, rien n'arrête cette bactérie, quoi. Et c'est pour ça qu'un jour, exactement, on décide de m'amputer progressivement. D'abord d'une jambe, ensuite de l'autre, ensuite du bras gauche et ensuite du bras droit. Et c'est à la fin de ces amputations-là qu'on a réussi à faire partir la bactérie. Et c'était un beau combat de remporter déjà, ouais.
Il y a eu 5 mois d'hospitalisation et en plus, tu as fait une septicémie et un staphylocoque, c'est ça?
Ouais, je me suis dit, franchement, on va prendre le tout, hein, on va pas faire les choses à moitié. Et c'est vrai qu'il y a eu des vraies complications à l'hôpital. Après, c'est assez dingue parce que quand je raconte ça, à chaque fois, les gens se disent, mon Dieu, quelle horreur. Ça devait être horrible, mais en fait, moi, je garde pas de souvenirs de ça. J'ai plus aucun souvenir d'avant ma maladie, mais j'ai aussi... aucun souvenir de l'hôpital, ou alors c'est quelques souvenirs, quelques flashs, mais de bons souvenirs. Je garde des souvenirs des clowns qui venaient me voir les mercredis après-midi, je garde des souvenirs de mes parents qui venaient me rendre visite, mais j'ai pas les souvenirs de descente au bloc opératoire, de changement de pansement, etc. Comme quoi le corps humain et précisément le cerveau est bien fait, quoi, parce qu'il arrive, quand on l'a décidé, à faire abstraction des mauvaises choses. Et c'est ça qui est fou, je trouve.
Tout de suite, ton premier objectif, c'est de remarcher. Comment ça se passe ?
Dès l'hôpital, dès que je commence à reprendre un peu conscience de ce qui est en train de se passer, j'ai un objectif et j'en parle au staff médical qui m'entoure et je leur dis, ok, super, bon, je me rends compte que c'est bon, je suis amputé des quatre membres, mais est-ce que je vais pouvoir remarcher un jour ? Quand on a 6 ans, en fait, on est très naïf. On ne pense pas à l'impact que ce handicap va réellement avoir dans ma vie. J'étais en train de me dire, est-ce que je vais remarcher ? Avant de penser à, est-ce que je vais pouvoir travailler ? Est-ce que je vais pouvoir fonder une famille ? Est-ce que je vais pouvoir... Bref, on se pose pas beaucoup de questions, c'est juste l'essentiel. Et à l'époque, l'essentiel, bah, c'était de retrouver mes potes et aller faire des bêtises avec eux, quoi. Et ça passait par les prothèses, par la marche. Et on m'a tout de suite rassuré, on m'a dit qu'il existait des prothésistes dans la région et qu'on allait pouvoir m'appareiller. Et ça a été, ouais, mon principal objectif en sortant de l'hôpital, c'était de refaire mes premiers pas. Et c'est une grande fierté parce que je fais partie des gens qui peuvent dire qu'ils ont marché pour la première fois de leur vie deux fois. Et je pense que ces deux fois-là, ce sont des moments très forts qu'on partage. Les premiers pas, c'est toujours des moments qu'on partage entre parents, avec son enfant. Et là, c'était pareil. J'avais 6 ans pourtant et mes parents étaient là, ma kiné était là, mon chirurgien était là. Et c'était un moment juste incroyable. Ouais.
Quel est le regard des autres enfants sur un enfant handicapé ?
Alors moi, après l'hôpital, j'ai fait 2 ans dans un centre de rééducation. C'est là-bas que j'ai réappris tout. De vivre, tout simplement. C'est là-bas que j'ai réappris à vivre, à marcher, à manger, à écrire, à me doucher, à fermer ma braguette tout seul. Mais pendant 2 ans, du coup, je suis resté qu'avec des personnes en situation de handicap, ou alors malades, ou alors qui venaient d'être victimes d'un accident. Et quand on m'annonce que ça y est, je suis autonome et que je peux retourner dans une école normale, c'est une grande fierté. Je me dis super, je vais pouvoir retourner dans l'école juste à côté de chez mes parents, ça va être génial. Mais d'un autre côté aussi, je me dis ok, comment les autres vont réagir ? Parce qu'à l'époque, je souffre beaucoup du regard des autres. C'est-à-dire que je veux même pas aller faire les courses avec mes parents parce que à 7-8 ans, je comprends pas pourquoi tous les regards sont différents. J'arrive pas à comprendre pourquoi, en retournant dans les endroits dans lesquels j'étais déjà allé avant de tomber malade, pourquoi les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre, quoi. J'allais faire mes supermarchés pourtant dans le même endroit. Pourtant, les gens me regardaient comme si j'étais quelqu'un qui était déguisé ou je sais quoi. Et c'était très difficile pour moi et ça me faisait vraiment flipper le fait de retourner dans une école normale. Et je me suis fait une promesse le premier jour de la rentrée, celle d'utiliser mon handicap pour aller voir les autres. Je me suis dit, ton handicap, c'est où ce qui va te freiner ? Ou c'est ce qui va te permettre de progresser. Et je crois que j'ai utilisé la première étape parce que tout de suite, quand je suis rentré à l'école et que j'ai fait la première récréation, j'ai utilisé mon gros fauteuil électrique parce que j'avais pas la capacité de marcher toute la journée pour aller voir les garçons. Je leur disais, vous avez vu, moi j'ai une petite voiture, vous en avez pas. Et du coup, pareil, ça, on a commencé à rire, ils ont commencé à me poser tout un tas de questions. Mais c'est ce qui est génial avec les enfants parce qu'à partir du moment où on a répondu à ces questions-là, ils font abstraction aussi de tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient réponse à leurs questions, pour moi, pour eux, j'étais plus une personne handicapée. J'étais juste un enfant différent, mais qui avait la capacité, la possibilité de jouer avec eux. Et voilà, c'était effrayant et c'est devenu tout de suite quelque chose de super joli et de super important pour moi, cette rentrée.
Tu sentais qu'il y avait un impact sur tes parents, ta grande sœur ?
La maladie ?
Ouais.
Moi, quand je raconte mon histoire, je peux pas parler que de moi. À chaque fois, je suis obligé de parler de mes parents et de ma grande sœur Océane, parce que pour moi, ça a été eux qui ont été impactés les premiers. Comme je dis, à 6 ans, quand on est à l'hôpital et quand on nous annonce qu'on va plus avoir de mains et plus avoir de pieds, moi, la seule grosse question que je me posais, c'est comment je vais faire pour sucer mon pouce, parce que c'est ce que j'adorais faire à l'époque. Alors que les parents, forcément, quand on leur annonce ça, c'est tout de suite horrible, c'est tout de suite pas dramatique, parce que c'est des remises en question, c'est réfléchir à une vie complètement différente. En plus, à ce moment-là, mes parents venaient de signer un permis de construire pour faire une belle maison à étage. On est mal barré parce que j'ai un gros fauteuil électrique. Bref, c'est un retournement de situation complètement dingue. Et puis, quand on a une sœur qui a 3 ans de plus que soi, moi, ma sœur avait 9 ans à l'époque et du jour au lendemain, elle voit plus du tout son petit frère, elle peut même pas assister à l'hôpital. Pour moi, ce sont ces 3 personnes-là les plus courageuses, ouais, c'est clair.
Quand on est jeune, on a besoin de sources d'inspiration. Et toi, ça a été Philippe Croizon, amputé des 4 membres comme toi. En quoi il a été important ?
Philippe Croizon, il a été important pour moi parce que dans la vie, on a souvent besoin de deux repères. Et moi, Philippe, bah, c'était un gars qui me ressemblait quelque part, même si on est chacun tous bien différents. Mais la première fois que j'ai la chance de le rencontrer, je suis hyper rassuré, sans même lui parler. Parce que je le vois arriver devant chez moi en voiture. Et là, je me dis, waouh, génial, je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. Et puis, quand il descend de sa voiture, il marche avec des belles prothèses en carbone, il marche super bien. Je me dis, waouh, je vais pouvoir conduire une voiture, je vais pouvoir marcher super bien avec des prothèses en carbone quand je serai grand. Et puis, du côté passager, il y a une femme qui sort de la voiture. Et je me dis, waouh, je vais même pouvoir avoir une femme quand je serai grand. Et sans même lui avoir parlé, à ce moment-là, il m'a déjà rassuré. Parce que j'avais l'exemple sous mes yeux que, bah, malgré notre handicap, qui était quasi similaire, eh ben, il avait une vie tout à fait normale, ce mec-là.
Très vite, tu as, malgré ton handicap, envie de faire comme tout le monde. Tu as dit une jolie phrase. C'est pas parce qu'on est amputé des membres qu'on est amputé d'un avenir. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, ça ?
Bah, souvent, quand on pense handicap, on pense à l'inaccessibilité, le fait d'avoir tout simplement une pause dans sa vie ou même un arrêt, quoi. C'est comme si, en gros, dès qu'on t'annonce un handicap, eh ben, t'es fichu. Mais en fait, moi, pas du tout. Mes amputations et cette maladie, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte, malgré mon jeune âge, que, bah, il faut profiter de chaque instant. En fait, pour moi, ça a même été une chance parce qu'en sortant de l'hôpital, je me suis rendu compte que la phrase que plein de personnes nous ont déjà dites, c'est ces phrases du style « profite de la vie, ça va vite »,« profite de la vie, on n'en a qu'une ». C'est des phrases un peu bateau qui nous saoulent quand on nous dit. Mais moi, en sortant de l'hôpital, eh ben, je me suis dit « ok, mais franchement, ils ont quand même un peu raison, les gens qui disent ça, parce que franchement, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Une maladie, un accident, on dit que ça arrivera toujours aux autres, mais pas à soi. » Et ben, en fait, le jour où ça nous arrive, on se dit « ah merde, j'aurais dû réfléchir un petit peu ». Et du coup, bah, je me fais une promesse aussi à ce moment-là en me disant bah, « à partir de là, je vais tout prendre en fait. Tout ce qu'il y a à prendre, je vais le prendre. C'est-à-dire que dès que j'aurai une idée, dès que j'aurai un objectif, je vais tenter de l'accomplir. Alors des fois, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a encore plein de choses que je n'y arrive pas, que ça ne fonctionne pas, que ça n'aboutit pas. Mais au moins, je n'ai pas le regret de me dire « j'aurais dû essayer ». Parce que je sais qu'au fond de moi, j'aurais tout mis en place ou tout essayé de mettre en place pour accomplir quelque chose.
L'une des premières tentatives, c'est la natation. Parce que ça te donnait le sentiment d'être comme les autres dans l'eau, c'est-à-dire. Ouais.
Bah en fait c'est simple pour moi parce que quand j'arrive à la piscine j'ai plus de prothèse, j'ai plus de fauteuil parce qu'à l'époque j'étais beaucoup en fauteuil, c'est-à-dire que j'enlève mes adaptations pour me déplacer comme tout le monde, c'est-à-dire que je me déplace comme toi, comme n'importe quelle personne qui va nager dans la ligne d'eau à côté et ça c'est une fierté. À l'époque c'était même très important pour moi parce que j'avais besoin de reprendre confiance en moi, en mon nouveau schéma corporel. Et les premières fois, quand je suis dans l'eau et que j'arrive à nager aussi vite que les mecs qui sont à côté de moi, je me dis « Ok, les gars, vous avez vu, on n'a pas le même corps, pourtant je suis devant toi ou je nage à la même vitesse que toi. » Et ça m'a permis petit à petit à reprendre confiance en moi parce que j'avais perdu toute confiance. C'est difficile du jour au lendemain quand on perd ses membres, quand on a des cicatrices sur les bras et sur les jambes. Plus on grandit, plus on fait attention, en plus au regard des autres, à notre corps, à notre image. Et c'était difficile. Mais le sport et la natation, plus précisément, m'a aidé à reprendre confiance à la fois en moi et en mon nouveau schéma corporel.
Surtout que tu avais la phobie de l'eau.
Ça, c'est vrai que ça peut paraître complètement bête, mais vraiment, c'était une phobie. C'est pas un terme que je dis comme ça. C'est-à-dire que quand il s'agissait d'aller à la piscine avec l'école ou d'aller me baigner avec mes parents en vacances, c'était vraiment une épreuve pour moi parce que c'était un élément qui me faisait super peur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me lance le challenge dès la sortie d'hôpital ou quelques années plus tard d'aller au contre de cette phobie parce que je voulais prouver à mes parents que malgré ce qui venait de nous arriver, je dis nous parce que ça nous a touchés tous, bah que j'étais capable de faire de belles choses, y compris bah aller au contre de mes plus grandes peurs.
Et d'ailleurs, ça n'a pas si mal marché puisque tu as été double vice-champion du monde en natation, plus jeune athlète de la délégation olympique à Rio. Et malheureusement, tu dois renoncer à ton rêve olympique, la faute aux catégories classification de handicap. Est-ce que déjà, tu as trouvé ça injuste ?
J'ai trouvé ça terriblement injuste. La natation paralympique et le paralympisme en général, en fait, on est classé par catégorie de handicap. En gros, il y a 10 catégories en natation, de S1 à S10. S1, c'est les handicaps les plus lourds. S10, c'est les handicaps les plus légers. Moi, j'étais en catégorie S5. Mmh. Alors forcément, dans chaque catégorie, on n'a pas tous le même handicap, parce qu'il existe un milliard de handicaps bien plus différents les uns par rapport aux autres. Mais en gros, normalement, on fait en sorte d'avoir un pourcentage de handicap dans l'eau à peu près similaire dans les catégories. Et pourtant, en 2017, je me suis rendu compte du jour au lendemain qu'il y avait deux mecs qui venaient de descendre dans ma catégorie avec leurs mains. Et forcément, quand on a deux mains dans l'eau, c'est très avantageux. Et moi, j'ai vu cet espoir de médaille disparaître à cause de ces mecs-là. Et c'est très difficile de faire des sacrifices chaque jour, de se refuser certaines choses pour accomplir un rêve. Et finalement, ce rêve, il disparaît, non pas parce qu'on s'en donne pas les moyens, mais parce que c'est mathématique et physique. Demain, ça change tout. Donc voilà, j'ai préféré de mettre ça de côté parce que ça devenait trop anxiogène pour moi. Et moi, je fais du sport avant tout pour me faire plaisir. Et je pense qu'à partir du moment où j'aurais pu cette énergie, cette envie d'aller me lever le matin pour accomplir quelque chose, j'arrêterai. Parce que c'est avant tout du bien-être et tout simplement quelque chose de positif pour moi, le sport. Donc voilà.
Est-ce que parfois, tu en as marre de parler de ton handicap?
Des fois, j'en ai marre, c'est vrai, de parler de mon handicap. Après, je pense que c'est important de ne pas le négliger. Parce que c'est ce que je suis. Je suis une personne handicapée. Moi, j'ai pas peur de le dire. Les personnes qui disent personne handicapée, qui me disent tu es une personne handicapée, ça me fait rien parce que c'est ce que je suis. Et pour moi, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est pas quelque chose qui est frustrant. Au contraire, c'est ce qui me définit. Mais j'espère aussi que les gens voient en moi pas qu'une personne amputée quatre membres, mais j'espère que les gens voient en moi un mec qui a certaines valeurs, qui essaye de faire tout un tas de choses pour véhiculer au maximum ces valeurs-là. Et voilà, donc non, je parle librement de mon handicap. Mais quand je prends la parole, je veux pas parler que de handicap. Ou en tout cas, j'ai pas envie que les gens me familiarisent comme c'était au curin, c'est celui qui va nous faire chier en nous parlant de handicap pendant une heure. Non, j'espère que les gens voient en moi un mec qui défend aussi la différence au sens large. Moi, c'est ça qui me plaît. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup dans les écoles aussi, et je parle avec les jeunes. Des fois, on se met un peu à part et on parle, et je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une génération, les jeunes, où on a beaucoup de complexes, des complexes à la con, parce qu'on se trouve trop grand, trop gros, trop noir, trop blanc, trop de taches de rousseur, trop de vergetures. Bref, toutes les personnes, aussi bien les gars que les nanas, on a tous des complexes un peu débiles. Et moi, j'essaye de décomplexer tout simplement les gens. Leur prouver que, là, aujourd'hui, moi, tu vois, je fais des photos, je fais pas mal de choses où je mets en avant mon corps, alors qu'il est très atypique. J'ai plus de mains, j'ai plus de pieds, j'ai des cicatrices. C'est pas des corps qu'on a l'habitude de voir dans le mannequinat ou ne serait-ce que sur Instagram. Pour autant, moi, j'en suis fier parce que c'est devenu une fierté. J'ai pas honte de le dire. Et j'ai envie de prouver aux gens que si moi, j'ai réussi à reprendre confiance en ce corps-là, tout le monde a la possibilité, au fond, de même de reprendre confiance en elle. C'est hyper important et je pense qu'on en a tous la capacité. Moi, je suis pas un super-héros, quoi. Si j'ai réussi à reprendre confiance en moi, c'est que tout le monde en est capable, c'est certain. Ouais.
Et du coup, cette motivation, cette conviction, ça t'a poussé à... Ok, j'avais un rêve olympique, il n'est pas possible pour des questions de catégorie, je l'ai dit, je vais me créer mon propre défi. Et c'est là où tu te mets à penser, à réfléchir au défi Titicaca. Déjà, comment t'es venu l'idée de ce défi?
Ouais, c'est ça. En fait, j'avais décidé pendant le premier confinement de mettre du coup de côté ma carrière de nageur paralympique. Et il était hors de question en fait de m'éloigner des bassins. Parce que maintenant l'eau c'est devenu un élément trop important pour moi. Et je voulais pas m'en séparer. Et je voulais me lancer d'autres challenges, mais où c'était moi qui définissais les règles, avant tout. Ne plus dépendre de fédérations, de tout ce qui est système, etc. Je voulais vraiment créer mes propres règles, et c'est ce qu'on a fait avec Anne, mon agent. On a commencé à imaginer quelque chose qui associait l'aventure, une traversée, dans un endroit, dans un milieu naturel, et surtout le pouvoir partager cette aventure. je voulais pas partir tout seul. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être très proche des gens. Je pense que c'est aussi dû à mon histoire, parce que ma famille a toujours été très présente autour de moi, et je crois que j'ai l'impression d'être obligé ou d'être redevable, dans le sens où je suis obligé d'emmener les gens avec moi maintenant. Mais je le fais par plaisir, je le fais de bon cœur. Et c'est comme ça qu'on a créé petit à petit le défi Titicaca, parce qu'en faisant des recherches d'un endroit où on pourrait potentiellement envisager une traversée, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup dans le monde non plus. Mais je voulais faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc la traversée de la Manche, Gibraltar, tout ça, c'était hors de question. Et je me suis intéressé aux lacs et aux États-Unis ou même en Amérique au sens large. Et en fait, au moment où je m'intéresse aux lacs, en Amérique, il y a plein de lacs. Mais il y a aussi des lacs où il y a des caïmans, des serpents et tout ça. Donc franchement, j'ai déjà quand même perdu pas mal de membres. Ce serait quand même dommage d'en laisser un autre corps. Et franchement, c'était flippant. Il y avait pas beaucoup de lacs en fait qui permettaient d'envisager ce genre de traversée. Et très rapidement, je me suis orienté vers le lac Titicaca parce que j'en avais déjà entendu parler à l'école. Et c'est un lac qui est majestueux. On a tous entendu parler au moins une fois de ce lac, et voilà, on est parti sur cette traversée, et on a préparé cette expédition pendant pratiquement 2 ans. Ouais.
Il a fallu constituer une équipe, et toi, tu as choisi 2 autres athlètes exceptionnels, Malia Metella et Mathieu Vitfoot. J'ai appris à dire son nom de famille, et il m'en voudra pas. Comment tu as choisi ces athlètes exceptionnels?
Un peu par hasard, parce que il fallait déjà que je trouve 2 personnes un peu folles pour partir avec moi. Et je voulais absolument une fille et un garçon. Et c'était difficile de trouver des personnes aussi qui étaient engagées, mais qui avaient aussi un peu de temps libre à me consacrer, parce qu'il y avait une préparation, il fallait partir en stage, il fallait partir à l'étranger pour l'expédition. Et j'ai pensé à Malia Metella, donc une ancienne nageuse olympique qui a fait une médaille d'argent à Athènes sur 50 mètres nage libre. Et on s'était déjà croisés en fait sur des événements, mais on s'était jamais trop parlé. Tu sais, quand t'es dans ce genre d'événement, il y a beaucoup de monde, on se croise, on se dit bonjour, on se respecte beaucoup entre sportifs. Mais j'avais jamais trop parlé avec elle, et j'ai toujours trouvé rayonnante. Et quand je l'ai appelée, direct, elle a accepté, quoi. Et du coup, direct, je me suis dit, OK, c'était elle qu'il me fallait, parce qu'elle est complètement barge d'accepter un défi comme celui-ci en quelques minutes. Et Mathieu Vitfoot, lui, c'est un éco-aventurier qui a fait déjà des trucs exceptionnels. Il a fait le tour du monde à vélo, la traversée du détroit de Gibraltar, mais toujours avec une dimension écologique derrière ces aventures. Et ça, c'est ce que je trouvais assez exceptionnel. Mais finalement, on s'est rencontrés par hasard parce qu'il m'a aidé à préparer une conférence TED. Et c'était mon coach, c'est lui qui m'a aidé à écrire. Et au moment où il s'est présenté pour la première fois, il m'a dit, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, toujours avec une dimension environnementale derrière. Je lui ai dit, écoute mec, on parlera de la conférence un peu plus tard, j'ai quelque chose à te proposer. Et lui, il a mis un peu plus de temps à répondre parce qu'il était sur d'autres projets, il a un boulot à côté, et c'était pas facile pour lui d'accepter tout de suite. Mais finalement, un jour, on a dîné ensemble, et il m'a dit, OK, je pars avec toi. Et le trio a été formé, et là c'était déjà un sacré soulagement, parce que j'étais enfin accompagné dans ce défi fou, quoi.
Tu as été accompagné dans ce défi, il y a eu toute une équipe autour de vous trois, il y a eu ta manageuse Anne qui a piloté tout le projet, il y a eu un coach, Stéphane Leca, qui est entraîneur national en eau libre, il y a eu plein de partenaires, plein de sponsors, il y a eu très vite cette notion d'esprit d'équipe.
Très vite, il y a eu plus d'une dizaine de personnes sur ce projet. C'est vrai que c'était, et c'est toujours ma plus grande fierté en fait. Hein. C'est pas que d'avoir traversé le lac, c'est d'avoir rassemblé tous ces gens-là. De voir des grosses marques qui sont intéressées par le projet, de voir des gens qui nous suivent de plus en plus sur les réseaux sociaux, de voir une équipe, un staff rempli de personnes qui excellent dans leur domaine. Hein. On avait les meilleurs médecins, on avait les meilleurs coachs, on avait le meilleur chef qui nous faisait nos repas.
Juan Arbeláez.
Bah ouais, et même c'était une grande fierté que tous ces gens-là décident de mettre un peu leur patte dans ce projet. Et c'était dingue. Et surtout quand on voit l'impact que ça a eu, que ce soit chez les Péruviens et les Boliviens, mais aussi chez nous en France, quand on voit 11 jours après notre portable bouillant parce qu'il a reçu des milliers de notifications, on se dit ok, le message est passé et là on se dit c'est extraordinaire, c'est génial.
On passe la préparation, on arrive là-bas. Est-ce qu'on sent tout de suite une excitation autour de ce défi ?
Ouais.
Tout de suite ?
Tout de suite, on sent que les gens deviennent de plus en plus fous, déjà, avec ce défi. Quand on arrive sur place, les gens nous disent « mais vous êtes des grands malades, vous ne savez pas du tout ce qui vous attend ». Et en fait, nous, on est hyper, hyper rassurés parce qu'on a fait 15 mois de prépa, on a travaillé le froid, l'altitude, la distance, bref, toutes les conditions possibles et imaginables. Puis quand on arrive là-bas, grand soleil, le lac, on dirait un lac d'huile, ça ne bouge pas du tout, on se baigne un petit peu au bord, on voit que l'eau est à 14-15 degrés, on se dit « ok, mais c'est 5 degrés plus chaud ». Et en fait, le jour du départ, c'est comme si un mec a appuyé sur un bouton et qu'il a mis en route le jacuzzi, quoi. Parce que c'était tout de suite l'enfer, des vagues qui ont commencé à arriver, l'eau qui a perdu 5 degrés, on ne sait pas comment, et tout devenait très gris. Enfin, c'est comme si le lac cherchait à se défendre. Et c'est ce qu'on nous avait dit. C'est ça qui est bizarre. Et moi, je suis très terre à terre. Mais honnêtement, on nous a dit plusieurs fois que ce lac était vivant.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont dit « faites attention, c'est lui qui va décider quand est-ce que vous allez nager ». Et nous, on avait préparé une espèce de journée type. Où on s'est dit « on va nager 3 heures le matin, 1 heure chacun ». On va déjeuner, on va se reposer, puis on renagera 3 heures l'après-midi. Mais pendant 11 jours de traversée, ça ne s'est jamais passé comme ça. Parce que le lac, des fois, nous a dit qu'on ne nagerait pas du tout de la journée. Il y a eu 2 jours, je crois, où on n'a pratiquement pas nagé. Il y a eu des jours où on a dû nager de nuit. Des fois, on a dû nager tard le soir, tôt le matin. Et c'était ça qui était difficile, c'était le manque de visibilité dans cette aventure. C'est ce que je dis. En fait, nous, quand on est sportif de haut niveau, on a l'habitude de travailler sur des détails et sur une planification qui est hyper
cadrée.
Hein. C'est notre préparateur physique, c'est notre coach qui prépare ça. On sait que tel week-end, on doit être bon. Donc, c'est le coach qui doit décider un peu sa stratégie d'entraînement. Que là, en fait, le coach avait fait son taf. Par contre, nous, on arrive à l'échéance et on se rend compte que en fait, tout ce qu'on a fait avant, c'était bien. Mais il y a encore une part de mystère, en fait. Parce que c'est pas nous qui allons décider quand est-ce qu'on va performer. Mmh. Ça va être le lac, ça va être la météo, ça va être le vent, ça va être les orages. Et ça nous a vraiment joué des tours parce que Mathieu, lui, avait l'habitude de ces conditions un peu difficiles. Malia et moi, pas du tout, quoi. Nous, on a l'habitude de nager dans notre bassin olympique au chaud. Et là, c'était franchement pas facile.
Nous allons faire une pause dans cet échange et vous retrouverez Théo dans une semaine avec le récit du défi Titicaca, mais aussi la complexité parfois des relations humaines entre valides et personnes en situation de handicap, avec une belle anecdote sur François Hollande. J'aimerais remercier Lacoste qui m'a permis d'enregistrer cet épisode dans ses locaux. Un grand merci à Adrien Noël à la réalisation et à Laurent Aquenin pour la nouvelle musique. J'attends vos réactions sur ce nouveau format sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une semaine et d'ici là, prenez soin de vous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.